VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Bion, il est 11h au Burkina Faso. Bonjour à tous. L'offensive des groupes islamistes dans le nord du Burkina depuis 2016 s'est soldée par des dizaines de civils tués et des dizaines de milliers de personnes chassées de leur foyer, indique un rapport de l'organisation Human Rights Watch publié ce vendredi. Parmi les violations sérieuses commises par des groupes islamistes armés, Human Rights Watch recense l'enlèvement et l'exécution de chefs locaux, 42 exécutions présumées, le pillage notamment de troupeaux, la réquisition d'ambulances, la destruction d'écoles, les restrictions opposées aux femmes et aux villageois célébrant des mariages et des baptêmes et la destruction de commerces. Et hier, justement, deux personnes, dont le maire de Makoy, commune rurale située dans la province de Loudalan, dans le nord du Burkina Faso, en proie aux attaques djihadistes récurrentes, ont été enlevées jeudi soir par des individus armés, a annoncé l'Union pour le Progrès et le Changement, UPC, un parti d'opposition. Au Mali voisin, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Abdramane Babi, venu présenter ses condoléances hier à Nioro, dans l'ouest du pays, a été conspué par les familles de militaires tués dans le centre du pays au cours d'une attaque qui a fait 26 morts. Un précédent bilan de cette attaque à Diora, le 17 mars, s'élevait à 23 morts. De Bamako, les précisions de notre correspondant, Kassim Traoré.
Toutes les parties de l'établissement et la publication de la liste de 26 victimes qui a révolté les femmes de Kati. Si grâce à une médiation d'une journée, la marche des femmes de Kati a pu être annulée, tel n'a pas été le cas à Nioro du Sahel. Nous en avons assez, trop de morts. Nos maris, nos enfants, ce sont eux qui meurent à longueur de journée. Ce n'est pas normal, c'est un complot, déclare une veuve de militaire devant le camp de Nioro. Comme elle, plusieurs veuves de militaires en tenue noire et rouge ont manifesté leur colère. C'est surtout les veuves et les orphelins de soldats tombés sur les champs de l'honneur, plus la population de Nioro qui ont refusé l'accès du camp militaire en formant un bouclier humain, nous confie Bakary Semega, un enseignant. Pour lui, l'État doit prendre des dispositions afin de trouver une solution à ces problèmes. Il ajoutera qu'avant l'arrivée de la délégation de Bamako, il y avait une vive tension à la veille au niveau du camp. Le général de brigade Abdramane Babi et les membres de sa délégation ont été obligés de renoncer à leur visite de présentation des condoléances aux familles de soldats savamment assassinés par les ennemis de la paix, conclut Bakary Semega, Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La police ghanéenne a suspendu trois agents mis en cause dans l'agression de journalistes qu'ils avaient frappés dans un contexte d'inquiétude professionnelle après le meurtre d'un journaliste anticorruption réputé. Les policiers suspendus mercredi sont accusés d'avoir frappé trois journalistes du Ghanaian Times impliqués dans une infraction routière qui les filmait à Accra le 14 mars. Parmi les journalistes, une femme a dû être hospitalisée. La violence de cette agression a choqué dans un pays souvent salué pour son dynamisme démocratique, classé 23e sur 180 pays dans l'indice mondial 2018 de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières, RSF, devant la France, les États-Unis et le Royaume-Uni.
Nos infos sur voafrique.com.
Emmanuel Macron, qui avait été invité par Kigali à participer à la 25e commémoration du génocide rwandais le 7 avril, ne s'y rendra pas et a chargé le député de la République en marche, Hervé Berville, orphelin Tutsi, de le représenter, a annoncé jeudi l'Élysée. Nicolas Sarkozy est le seul président français à s'être rendu au Rwanda en février 2010. Les relations entre la France et le Rwanda ont traversé plusieurs zones de turbulence ces dernières décennies, empoisonnées par la question du rôle joué par Paris lors du génocide des Tutsis en 1994. L'actuel président rwandais Paul Kagame a notamment accusé en 2014 Paris d'avoir participé à ces massacres qui ont fait, selon l'ONU, 800 000 morts, des accusations rejetées par les autorités françaises. Au Congo-Brazzaville, le gouvernement a initié un programme de soutien aux familles pauvres qui vivent avec moins de 1 000 francs CFA par jour. Le projet Lisungi consiste à financer de petits projets pour autonomiser ces familles qui représentent plus de 46% de la population congolaise. À Brazzaville, retrouvons ce reportage de notre correspondant Arsène Séverin.
Ce programme vise plus de 9 300 ménages. Chaque famille jugée pauvre, celle vivant avec moins de 2 dollars ou moins de 1 000 francs par jour, peut prétendre à l'Usungi. La ministre des Affaires sociales, Antoinette Ndinga-Njodo, conduit ce projet.
L'objectif principal du projet Lissungi, c'est le développement du capital humain. Donc c'est d'arrêter la transmission intergénérationnelle au niveau national 46,50%. Mais au niveau des départements, vous avez des départements qui dépassent les 78%. Brazzaville et Pointe-Noire, bien qu'ayant un taux de pauvreté faible par rapport à la moyenne nationale, autour de 25-30%, il y a des poches de pauvreté.
Le soutien financier du projet Lissungi à chaque famille est plafonné à 250 000 francs CFA. Selon les données fournies par les autorités, le pays compte plus de 47% de pauvres dans plusieurs coins du pays, et ce malgré les masses d'argent engrangées grâce au pétrole. La pauvreté touche jusqu'à 78% des Congolais. À Talangaï, un quartier de Brazzaville, les attentes de Lissungi sont inestimables. Marie Ngoyi, agence sociale.
La question de la demande est très importante au niveau de Talangaï par rapport au RSU. Juste avant, nous étions déjà à 3105 demandeurs à l'inscription au niveau du RSU. Ça veut dire que, étant donné que c'est une question d'argent, et tout le monde presque s'estime pauvre.
En réalité, ce projet est opérationnel depuis 2015. Plusieurs familles ont vu leur niveau de pauvreté s'améliorer. Paul Ganongo, responsable de la communication de Lissungi.
On peut dire 4 ans après, nous sommes en 2019, on voit quand même des ménages qui, avec le peu qu'ils percevaient, sont arrivés à faire des investissements à la taille des allocations reçues. Et ça, c'est très fondamental.
Le gouvernement qui a inscrit 6 milliards pour alimenter Lissungi en 2019 envisage un jour de le réaliser à grande échelle avec des financements atteignant les 200 milliards de francs CFA l'année. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Le président du petit archipel des Comores, Azali Assoumani, sollicite dimanche dans les urnes son maintien à la tête du pays dans un climat tendu avec ses adversaires qu'il accuse de dérives autoritaires et redoute un hold-up électoral. Même s'il a rendu conformément à la constitution les clés du pays il y a 2 mois pour faire campagne, M. Azali, âgé de 60 ans, fait figure de grandissime favori au terme d'une campagne qu'il a écrasée de tous les moyens de l'État. Le président haïtien Jovenel Moïse a nommé jeudi un premier ministre par intérim après la motion de censure votée en début de semaine par les députés contre le gouvernement en place depuis 6 mois. Jean-Michel Lapin, qui était jusqu'à présent ministre de la Culture et de la Communication, a été chargé par le chef de l'État d'expédier les affaires courantes en attendant la formation d'un nouveau gouvernement. La Chambre des députés a voté lundi le départ du gouvernement dirigé par le premier ministre Jean-Henri Séan. Sa position était fragilisée par de récentes manifestations qui ont fait plusieurs morts.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
2 soldats américains ont été tués aujourd'hui en Afghanistan, a annoncé l'OTAN, alors que États-Unis et Taliban mènent depuis des mois des pourparlers de paix. La mission Resolute Support de l'OTAN, dans un communiqué, n'a pas précisé les lieux ni les circonstances de leur mort, seulement qu'ils étaient en opération. D'après un document du département de la défense publié jeudi, près de 2300 soldats américains sont morts et plus de 20 400 ont été blessés en Afghanistan depuis fin 2001, quand une coalition internationale menée par les États-Unis a chassé les talibans du pouvoir. Le gouvernement syrien a condamné aujourd'hui les propos du président américain Donald Trump, lequel a déclaré que l'heure était venue pour les États-Unis de reconnaître la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. Dans un communiqué publié par l'agence de presse officielle Sana, une source au ministère syrien des Affaires étrangères estime que la déclaration de Trump illustre le soutien aveugle des États-Unis à Israël et ajoute que Damas est déterminé à récupérer le plateau du Golan par tous les moyens possibles. Les déclarations de Donald Trump ne changent rien à la réalité que le Golan est et restera syrien, ajoute cette source, estimant qu'elle reflète une violation flagrante de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. On termine avec la Corée du Nord. Pyongyang a retiré son personnel du bureau de liaison intercoréen, a annoncé aujourd'hui la Corée du Sud, quelques semaines après l'échec du deuxième sommet entre le leader nord-coréen Kim Jong-un et le président américain Donald Trump. Ce bureau, situé dans la ville nord-coréenne de Kaesong, avait ouvert en septembre dans le cadre d'un spectaculaire rapprochement sur la péninsule, mais celui-ci est mis à mal par le blocage des discussions sur la dénucléarisation. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes, vous retrouverez Henri Francisque en ce vendredi 22 mars de l'année 2019. Bon après-midi à tous, bon week-end.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.